Le journal vous est présenté par Anaïs Feugat. Bonjour Anaïs.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Au lendemain du putsch au Mali, quel interlocuteur pour les 5000 militaires français de la force Barkhane basée au Sahel. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est toujours retenu par les mutins. Un tiers des départements en France dépassent le seuil de vigilance de 10 nouveaux tests positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants. L'Agence régionale de santé du Grand Est lance un appel à des réservistes pour soulager les équipes en cas de seconde vague. La politique en mode rentrée, les Verts débutent aujourd'hui leur journée d'été près de Paris. Objectif, se trouver rapidement un candidat pour la présidentielle. Et puis, il n'y aura pas eu de miracle à Lisbonne après avoir éliminé la Juventus Turin Manchester City. Les footballeurs lyonnais butent contre la montagne Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Allemands vainqueurs 3-0 rejoindront Paris en finale dimanche.
France Inter.
Le nouvel homme fort du Mali a pris les traits d'un colonel de l'armée malienne, Assimi Goïta. Il se dit le président du Comité national pour le salut du peuple. Au lendemain du coup d'état militaire, le président Ibrahim Boubacar Keïta est toujours prisonnier des putschistes. Les mutins qui ont donné des gages à la communauté internationale, tous les accords passés seront respectés. Alors on pense bien évidemment à la force Barkhane de lutte contre les djihadistes au Sahel. Plus de 5000 soldats français, dont les deux tiers sont basés au Mali, avec une période d'incertitude qui s'ouvre, Benjamin Recouvreur.
Dans sa première déclaration depuis Kati, le Comité national pour le salut du peuple instauré par les mutins a tout de suite affirmé que la force Barkhane demeurait un partenaire pour la restauration de la stabilité. Sur le terrain pourtant, les militaires français n'ont plus d'interlocuteurs, comme le confirme le général Bruno Clément-Bollet, qui a été directeur de la coopération de sécurité et de défense du Quai d'Orsay.
Dans l'immédiat, la question qu'il faut se poser, c'est à qui Barkhane va pouvoir parler et comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on coordonne avec le Mali aujourd'hui. Maintenant, Barkhane et ses alliés n'ont plus aucun correspondant officiel. Et en même temps, il ne s'agit pas de composer avec n'importe quelle personnalité ou entité. Qu'y a-t-il derrière cette bande de militaires ?
C'est donc une période de flou qui s'ouvre pour les forces françaises sur place. Pour autant, les opérations menées par Barkhane ne sont pas menacées. Bruno Clément-Bollet.
Le partenaire de Barkhane, ce n'est pas que le Mali. Les actions qui sont actuellement réalisées au Mali, elles s'inscrivent dans un effort sahélien qui touche toute la zone, donc des cinq pays. Mais je doute que ça change profondément les choses dans les jours qui viennent.
Barkhane n'est pas la seule force étrangère à opérer sur place. La MINUSMA, mission de soutien des Nations Unies au Mali, avec ses 13 000 hommes, va elle aussi devoir s'adapter.
Et ce matin, c'est plutôt le calme au Mali. Les putschistes ont appelé hier la population à vaquer à ses occupations, à cesser tout vandalisme. L'opposition malienne applaudit. Elle veut même fêter demain la victoire, dit-elle, du peuple malien. Aura-t-elle convaincu des millions d'Américains le discours cette nuit de Kamala Harris, la colistière de Joe Biden à la Convention démocrate aux États-Unis, celle qui sera vice-présidente en cas de victoire? Incompétence, cruauté, pas de mots assez durs contre la gestion de la pandémie par Donald Trump. Même réquisitoire de Barack Obama, 170 000 Américains morts, des millions d'emplois perdus, nos pires instincts libérés, a dit l'ex-président. Barack Obama, dont Donald Trump veut décidément détricoter l'accord qu'il avait signé avec l'Iran. Le secrétaire d'État américain doit se rendre aujourd'hui aux Nations Unies pour enclencher un mécanisme juridique qui devrait imposer à tout le Conseil de sécurité de rétablir les sanctions internationales contre Téhéran. Une procédure absolument inédite, un mécanisme très contesté, y compris par les alliés des États-Unis, signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. De la fumée flotte ce matin sur San Francisco, la Californie à nouveau ravagée par des gigantesques incendies. Les pompiers luttent contre 367 feux. Des milliers de personnes ont dû fuir leur maison à quelques kilomètres au nord et au sud de San Francisco. Vacaville, 100 000 habitants près de Sacramento, doit être évacuée. La Californie touchée par une vague de chaleur sans précédent. La vallée de la mort, je vous le rappelle, a enregistré dimanche une température record de plus de 54 degrés. Sans doute la troisième température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Terrasse sur la mer pour rencontre au sommet. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Angela Merkel au fort de Brégançon, la résidence d'été des présidents français dans le Var. C'est la première fois que la chancelière y est reçue. Au programme des échanges entre les deux dirigeants, tous les dossiers chauds du moment, Biélorussie, plan de relance européen, Covid. Covid justement, où le président de la République estime qu'il ne faut pas tomber dans la doctrine du risque zéro. Il s'exprime aujourd'hui dans Paris Match. On ne peut pas mettre le pays à l'arrêt, mais Emmanuel Macron envisage pourquoi pas des reconfinements ciblés. En tout cas, sur le terrain, on se prépare devant l'augmentation du nombre de nouveaux cas, encore plus de 3000 hier. Dans la région Grand Est, qui a pris de plein fouet la première vague, pas question de se laisser surprendre. Tous ceux qui ont des notions en santé sont priés de se faire connaître auprès de l'Agence régionale de santé. Écoutez le docteur Claire Crétin, directrice de la stratégie à l'ARS Grand Est.
Cet appel, c'est pour continuer à venir soulager nos équipes, à la fois soignantes dans les établissements de santé, dans les structures médico-sociales, venir soutenir aussi les équipes qui pratiquent les tests. Vous savez qu'on a lancé des campagnes importantes pour proposer à toutes les populations qui le souhaitent de pouvoir se faire tester. Et donc, les profils que nous recherchons, ben, ce sont des profils soignants, bien évidemment, à la fois médecins, infirmiers, infirmiers spécialisés, étudiants, sapeurs-pompiers, pharmaciens, biologistes, masseurs-kinés. L'intérêt, c'est de pouvoir compter sur l'ensemble d'un volant de réservistes qui seraient prêts à pouvoir être mobilisés. Et puis, si les établissements en ont déjà besoin pour venir soulager leurs équipes qui sont encore, en effet, psychologiquement ou physiquement fatiguées et qui ont besoin de soutien, ben, c'est aussi l'occasion.
Le docteur Claire Crétin de l'ARS Grand Est. Depuis ce matin, le masque est obligatoire désormais dans toute la ville de Nice et plus seulement dans un périmètre restreint. Idem à partir de demain à Toulouse. Dans plus d'un tiers des villes en France, ce masque est obligatoire de manière totale ou partielle. Les habitants de Quimper, les vacanciers de la presqu'île de Crozon, priaient de ne pas boire l'eau du robinet. L'Aulne a un fleuve côtier pollué, concentration en ammoniac repérée au niveau de Châteaulin. Conséquence, l'usine d'eau potable est à l'arrêt. Pas d'eau potable au robinet donc pour une cinquantaine de communes selon la préfecture du Finistère.
Après leur succès au municipal, les écologistes seront-ils en ordre de bataille pour la présidentielle de 2022 ?
En tout cas, ils se retrouvent à partir d'aujourd'hui pour leur journée d'été, 3 jours à Pantin, près de Paris. Et déjà, la pression de Yannick Jadot qui veut un candidat dès janvier prochain. Europe Écologie Les Verts, pas seul cette année. Il y a aussi d'autres petites formations vertes et Génération de Benoît Hamon, avec, on l'a donc compris dans l'idée, une rampe de lancement pour un candidat écolo. Jeanne Dossé.
Pas question de sortir des noms. L'important, c'est le programme, l'écologie et le social comme colonne vertébrale. Le porte-parole de Génération, Benjamin Lucas.
Il ne suffit pas pour gagner l'élection présidentielle d'être à 25% et d'affronter l'extrême droite ou Emmanuel Macron. Il faut une majorité qui porte les transitions. Le projet écologiste, c'est un projet de transformation de notre société. Donc il faudra aller au-delà de simples petites additions électorales.
Il y a ceux qui s'y voient, comme Yannick Jadot, ceux qui pourraient y aller, comme Éric Piolle, le maire de Grenoble. Mais pour l'heure, pas de candidat qui s'impose. Pose décision au printemps, estime Julien Bayou, secrétaire national Europe Écologie Les Verts.
Après les régionales, évidemment, c'est aux adhérents et aux adhérentes de choisir. Je me vois mal choisir ou avec les 15 qu'on est à la direction dans un huis clos. Je pense qu'on peut élargir aussi aux écologistes le choix de notre championne, de notre champion. Il n'y a rien qui peut gagner sans le collectif.
D'autant que dans ce rassemblement de la gauche, il y a une absence de taille, la France insoumise. Mais le patron des Verts ne ferme pas la porte au parti de Jean-Luc Mélenchon.
On échange beaucoup avec eux dans les manifestations. On est même heureux que récemment, ils aient accepté le principe d'une réunion pour discuter un peu des sujets politiques. Ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, ça l'est et tant mieux.
Autre signe, pendant l'université d'été des Verts, les députés insoumises Clémentine Autain et Manon Aubry feront une apparition.
On est habitué des vidéos chocs de l'association L214, mais cette fois, de l'aveu même de l'association, il s'agit du pire élevage vu depuis plus de 10 ans. Cible de l'association de défense des animaux, un élevage de canards des Pyrénées-Atlantiques à 50 km de Pau, bâtiment insalubre, cage en train de s'effondrer, cadavres de canards décomposés, asticots, rats qui prolifèrent et 150 canards vivants se trouvent au milieu d'autant de leurs congénères morts. Un vétérinaire est attendu ce matin sur le site de l'élevage, mandaté par le ministère de l'Agriculture, qui demande la mise en demeure de cet élevage. Ils étaient trop forts, comme prévu. Le Bayern Munich a largement balayé l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-0 hier à Lisbonne, toujours à huis clos. Déception du directeur sportif de l'OL, le Brésilien Juninho, mais très fier du parcours de ses joueurs.
Je pense qu'on sort avec la tête haute. Moi, je suis vraiment fier de tous les joueurs, de la staff, et du travail qui s'était fait. On sait qu'il compte toujours contre une équipe qui est meilleure. Il faut accepter, donc on a accepté ça. Mais pour battre une équipe comme ça, il faut beaucoup de réussite et d'efficacité. Donc peut-être que si le début de match, on arrivait à mettre un, deux buts, des occasions qu'on a réussi à créer, peut-être qu'on allait voir un autre résultat. Mais bon, je suis vraiment, on est tous fiers du groupe. Bon, et là maintenant, je souhaite vraiment bonne chance à Paris.
qui Paris puisse montrer qu'il a Ligue 1. Et n'est pas ça que les gens pensent.
Voilà, Juninho qui supporte donc Paris, qui sera en finale contre le Bayern Munich. Et ce sera dimanche à Lisbonne, Karine.
Merci Anaïs Feguin. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 8h.